histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous. Au micro, Elisabeth Couget. En traversant le pont neuf qui enjambe l'Eure, d'un côté, nous avons une vue époustouflante sur la cathédrale de Chartres, tandis que, à l'autre côté du pont, une cheminée totalement isolée se dresse au milieu d'une large pelouse, ce qui peut paraître assez saugrenu. Et pourtant, cette cheminée est un témoin extraordinaire d'une époque très importante dans la vie de la capitale de la Beauce. Car en fait, il s'agit du dernier vestige de la grande fonderie de Chartres, disparue à la fin des années 60. Je crois qu'il y a peu de personnes qui pourraient nous en parler aussi bien que Michel Ferronnière, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à l'occasion de la parution d'un ouvrage consacré à la grande fonderie. Bonjour Michel Ferronnière et bienvenue sur les ondes de Radio Grand Ciel.
Eh bien, merci de me recevoir. Oui, ce livre vient tout juste de sortir et j'aurai plaisir à en parler avec vous.
Ça serait parfait. Merci beaucoup. Alors, vous êtes le co-auteur de ce livre qui est le sujet de notre émission dont je rappelle le titre, La Grande Fonderie, avec un sous-titre, Une histoire chartraine. Mais vous êtes de toute façon, vous êtes déjà une figure connue à Chartres. À d'autres titres, moi-même, je vous ai rencontré il y a une quinzaine d'années, alors que vous étiez le trésorier de l'Association des Grandes Ordres de Chartres. Je voulais savoir, travailler à l'ombre de la Dame de Pierre, comme Diane de Margerie a l'habitude d'appeler nommer ainsi la cathédrale, ça doit être une expérience assez peu commune.
C'est-à-dire que lorsque j'ai pris ma retraite, mon épouse travaillant à Chartres, comme certains le savent probablement, j'ai cherché à m'occuper et j'ai été recruté par la cathédrale de Chartres pour m'occuper de l'intendance du rectorat de la cathédrale. Ce que j'ai fait pendant plusieurs années et à cette occasion, Je rencontrais les gens des grandes orgues et progressivement, les choses se faisant comme cela, je suis rentré comme trésorier de l'Association des grandes orgues de Chartres, dont le siège était alors à Paris. C'est moi qui ai fait venir, en fait, l'association, le siège de l'association à Chartres. Et j'ai été trésorier pendant 3-4 ans.
D'accord. Bon, c'est à cette époque-là que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Alors, depuis quelques temps, par contre, vous êtes le président de la Société archéologique d'Eure-et-Loire. Et c'est ce qui vous a initié peut-être à fouiller dans les archives familiales, ces archives qui sont, il me semble, à l'origine de ce beau livre que nous pourrions feuilleter tout en divisant.
J'ai été membre de la Société archéologique d'Eure-et-Loire, qui est une très vieille dame, puisque c'est une société qui a été créée en 1856 et que beaucoup d'entre vous connaissent. Mmh. Je suis président depuis quelques années, 1912, je crois. Mais ça n'a rien à voir avec l'écriture du livre que j'avais un petit peu commencé auparavant.
Vous avez eu les archives chez vous.
J'ai travaillé avec des archives familiales essentiellement, qui ont été complétées au fil du temps par des petits emprunts aux archives municipales de Chartres, aux archives départementales d'Eure-et-Loire, ainsi que de la presse de cette époque-là, Le Progrès, etc.
Alors, je pense que tout à l'heure, on en parlera, puisque sans vouloir trop dévoiler le livre, plusieurs membres de votre famille avaient travaillé dans la grande fonderie, et votre père en particulier. Et c'est peut-être finalement c'est cette grande fonderie qui vous a approché de Chartres aussi, non ?
Parce
que votre père était polytechnicien et il dirigeait à une époque la grande fonderie.
Effectivement, c'était l'histoire familiale du côté de ma mère. Le premier, disons, du temps des fondateurs, le premier Bro, s'est appelé Alexandre Bro, était rentré dans l'affaire qu'avait créée Fontaine en 1844. Mm-hmm. Il est rentré en 1844. Son fils Francis lui a succédé. Ses deux fils, les deux fils de Francis, qui s'appelaient André et Rémy Brault, lui ont succédé. Et normalement, ça devait être un fils de mon grand-père, André Brault, qui devait prendre la succession.
Mais heureusement, enfin, tout à l'heure, peut-être on parlera encore de ces grands hommes qui ont travaillé. Pour le moment, j'aurais aimé peut-être au début de juste à effleurer finalement cette partie de votre vie, et de l'histoire de votre famille et de la grande fonderie en même temps. Mais j'aurais voulu demander justement, puisque vous êtes venu à cette époque-là, vous l'avez connu la grande fonderie, bien sûr, je suppose.
Ah, ben mon père y est travaillant. En fait, moi je suis arrivé à Chartres en 1942, et mon père a travaillé à Chartres jusqu'en 1956-57. Donc j'ai fait effectivement la plus grande partie de mes études à Chartres.
Ah oui.
Et donc voilà, j'ai de nombreux amis chartrains.
Vous avez bien connu. Alors, réaliser un ouvrage de la sorte, même en ayant sous la main, si on peut dire sous la main, puisque je crois que c'est plutôt dans les greniers qu'on trouvait ça, des archives extraordinaires, ça demande quand même beaucoup de temps. Est-ce que vous y avez pensé déjà avant, il y a longtemps, ou depuis quand vous envisagez ça?
C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai commencé cette recherche, c'est mon père, qui s'appelait Jean Ferronnière, et qui a utilisé une partie de son temps de retraite, lui aussi, pour constituer un fonds d'archives en récupérant des archives de la famille Brault, un petit peu à droite et à gauche. Et il a commencé donc à établir des notes qui ont servi à l'origine pour ce livre, puisqu'il y a plusieurs co-auteurs, et les premières études ont été faites par des gens.
En fait, les co-auteurs, vous pouvez nous donner les noms, peut-être, juste.
Oui, alors ces co-auteurs, en fait, ont travaillé. C'était une équipe qui a travaillé une recherche dirigée dans les années 80-90 par Louis Bergeron, qui est directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Donc, les trois personnes qui ont travaillé s'appellent Geneviève Dufresne-Sœur, Serge Benoît et Gérard Optose. Ces gens-là ont travaillé et ont publié leur travail dans un bulletin du CNRS, et bulletin qui est introuvable de nos jours.
Dommage.
Et une partie de leur, des archives à partir desquelles ils avaient travaillé venait de mon père qui leur avait transmis. Donc voilà. Donc en fait, on retrouve un travail qui avait été démarré par mon père.
Voilà.
Qui a servi de support pour une étude au CNRS, et qui a été republié en partie dans ce livre. Et moi, j'ai terminé l'histoire de la fonderie, puisque les études du CNRS étaient arrêtées pratiquement au début du XXe siècle.
D'accord. Bon, tout à l'heure, là, dans la suite de notre émission, on va parler de la grande fonderie, puisque vraiment, c'est très important. Je pense que, il y a eu, donc, vous êtes quatre à l'avoir écrit, ce livre. Je ne pouvais pas inviter tout le monde en même temps. Alors, je vous remercie encore d'avoir bien voulu participer à l'émission « Histoire d'en savoir plus ». Tout à l'heure, j'ai évoqué vos fonctions dans l'Association des Grands Ordres de Chartres, et ou durant votre fonction, de très nombreux artistes étrangers sont venus participer au concours international des Grands Ordres. Comment on dit, concours internationaux, puisque non, c'est un concours.
C'est un concours qui est établi effectivement par l'Association des Grands Ordres de Chartres, qui invite tous les jeunes qui décident de faire leur carrière en tant qu'organiste, à venir à Chartres. Et alors, il y a une soixantaine de postulants.
Alors,
c'est un concours qui a lieu tous les deux ans.
Effectivement. Alors, en l'occurrence, le concours de 2005 avait eu comme lauréat un Hongrois, qui s'appelle László Fachang, et je voulais dire que c'est un homme qui, aujourd'hui, est aux commandes d'une des plus grandes orgues de l'Europe, des orgues modernes, mais c'est vraiment un des plus grands orgues de l'Europe. Hein. Alors, pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter jouer donc László Fachang, interprétant sur les grandes orgues de la cathédrale de Chartres, Louis Vierne et les carillons de Westminster. Avec Michel Ferronnière, nous voudrions vous faire découvrir la grande fonderie de Chartres qui, entre 1836, si je ne me trompe, et 1969, au pied de la cathédrale, avait une importance capitale pour Chartres et sa région. Alors racontez-nous, Michel, le tout début de la fonderie. Cela a démarré comment ? Je me trompe, non ? 1836, c'est la bonne date ?
Oui, c'est tout à fait la bonne date. En fait, le créateur était un garçon qui s'appelait Pierre-Lucien Fontaine, qui habitait Pontoise. Et il a travaillé dans un atelier de Pontoise qui s'appelait l'atelier Baron, et dans des appareils de beuserie, qui faisaient des appareils de beuserie en bois à l'époque. Et les moulins de la vallée de l'Eure s'équipaient en partie chez Baron. Mmh. Donc Fontaine était venu à Chartres et avait repéré qu'il y avait beaucoup de moulins à rééquiper dans les vallées de l'Eure et du Loir. C'est la raison pour laquelle il est venu s'implanter à Chartres et il a fondé donc dans des jardins qui étaient dans leur basse ville entre les Petits Prés et la rue des Filieux. Mmh. Et qui étaient les anciens jardins où était l'abbaye des Grandes Filles.
Mmh. Et c'est à la place de ça qu'il a créé
à cette place qu'il a créé le premier atelier et qui a été un atelier de fonderie. En fait, Fontaine était un inventeur né. C'était une personne qui n'avait pas fait d'études particulières, mais qui était véritablement un inventeur, qui avait quand même travaillé à Paris et fait quelques suivis des cours au Conservatoire des Arts et Métiers, et qui avait à ce moment-là pris des contacts avec les grands scientifiques de l'hydraulique à l'époque, comme Poncelet. Et donc il avait en tête l'idée de remplacer les roues des moulins par des turbines qui devaient présenter un bien meilleur rendement. Mm-hmm. Donc il a commencé à déposer des brevets en 1846-47 de turbines originales. À l'époque, il y avait un fabricant en France pour les turbines basse chute qui s'appelait Fourneyron, mm-hmm. qui était un inventeur de la région de Grenoble et qui ne construisait pas lui-même, mais faisait construire à façon. Donc Fontaine a monté une fonderie, qui était la première fonderie du département, naturellement, mais une des premières fonderies en France. Et il a fait venir des contremaîtres anglais pour apprendre le métier aux maçons qui ont été engagés sur place. Mmh. Voilà. Comme il était seul et qu'il devait faire à la fois la conception des machines, la surveillance des ateliers, l'encadrer, le montage, faire la démarche commerciale, il a engagé très rapidement un garçon qui s'appelait Alexandre Bro, qui venait originaire de Châteaudun et qui avait fait l'école des arts et métiers de Châlons. Donc Alexandre Bro étant aux commandes à l'atelier et Fontaine étant le commercial et l'inventeur, on a eu une équipe qui a rapidement pris certaine importance sur le marché des turbines dites basse chute, c'est-à-dire avec des hauteurs de chute d'eau qui sont entre 1 et 3 mètres. Ce sont les hauteurs moyennes des chutes des moulins en Eure-et-Loire et dans toute la région centre. Mmh.
Alors c'était très important puisque à cette époque-là, à part l'agriculture, je crois qu'il n'y avait pas vraiment d'autres, il n'y avait pas d'industrie déjà, pas tellement d'industrie à Chartres, je pense, à cette période-là. Je crois que c'était surtout l'agriculture qui primait.
Chartres était une grande ville de marché essentiellement, donc on vendait à Chartres non seulement les céréales, le grain, la place des Halles naturellement, mais on vendait aussi beaucoup de moutons. On vendait de la laine, puisque les filatures de laine de Normandie venaient acheter de la laine à Chartres, mais effectivement, il n'y avait aucune activité industrielle.
Mais la fonderie travaillait essentiellement pour les meuneries, enfin pour les...
Alors, la fonderie a commencé à travailler pour les moulins, mais en fait, le besoin d'énergie hydraulique était un besoin important dans toutes les usines en France, car à l'époque, je rappelle qu'en 1846, le chemin de fer est tout juste arrivé à Chartres. Donc en fait, on n'avait pas de possibilité d'avoir du charbon à bon compte, en tout état de cause, et c'était l'énergie hydraulique qui était l'énergie la plus facilement disponible. Mmh, ainsi, les arsenaux, les poudreries françaises étaient équipées au départ de roues, comme les boulins, et progressivement se sont équipés avec des turbines.
Donc je comprends que ces turbines fabriquées, en particulier dans la grande fonderie de Chartres, avaient une importance énorme. Il y avait combien d'ouvriers qui travaillaient là?
Alors, évidemment, ça dépend des époques.
Mais je veux dire à l'apogée, peut-être, ou à la période la plus importante.
Ça a commencé, disons, dans les années 1840, il y avait 150 ouvriers. Et on est arrivé assez rapidement à 300 ouvriers dans les années 1860.
Ça fait rêver aujourd'hui.
En 1860, la ferme produisait en moyenne 38 turbines et 16 roues. Mmh. Et puis, bien sûr, les machines nécessaires pour équiper les boulins. Je rappelle qu'à l'époque, tous les boulins étaient équipés de meules, qui étaient faites en partie à bâton et en partie à la Ferté-sous-Jouarre.
Ah, d'accord. Alors, cette fonderie avait pris une ampleur considérable, puisque ça dépassait les frontières. Les produits de la fonderie obtenaient des médailles d'or à différentes expositions.
Alors là, ce qui a promu les fonderies de Fontaine, puisqu'on les appelait les fonderies Fontaine, c'est essentiellement, d'une part, le fait de fournir aux grandes poudreries et arsenaux nationaux, puisqu'en fait, avant d'acheter les turbines, les ingénieurs d'État, qui étaient des polytechniciens en général, ou ingénieurs du génie maritime, faisaient des évaluations, évaluaient les rendements comparés des différentes turbines, notamment entre Fontaine et Fourneyron. Et ils se sont rapidement aperçus que les turbines de Fontaine avaient un bien meilleur rendement que les turbines de la concurrence. Mm-hmm. Donc, en fait, tous les équipements des arsenaux français dans les années 1840-1880 se sont faits à partir de turbines de Fontaine. Mais, disons, c'était un achat totalement raisonné et techniquement irréprochable.
Ah oui, effectivement. J'avais participé il y a quelques jours à la présentation officielle du livre, dont je répète encore le titre, La Grande Fonderie, et en sous-titre Une histoire chartraine, dans l'hémicycle du conseil départemental, où j'ai vu un grand nombre de personnes présentes, dont j'ai appris que ces personnes étaient d'une façon ou d'une autre en relation avec la Grande Forge, ou eux-mêmes y avaient travaillé pour les très anciennes, ou pour les plus jeunes qui étaient des enfants de ces personnes-là. Et je pense que c'était vraiment très, très émouvant de voir à quel point ils étaient concernés, puisque c'est leur passé qui a été réveillé grâce à votre livre. Alors, donc, on a juste en 30 secondes, on pourrait peut-être dire les dates. Donc, finalement, ça a démarré 1836. Ça a monté en flèche jusqu'en 1900 à peu près, et ensuite...
Il y a eu un changement de portage dans cette affaire qui a eu lieu à peu près dans les années 1885. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une invention très importante pour la beuserie française, qui a été le passage de la meule en pierre au boulin mécanique. Le boulin mécanique, c'est une machine avec des cylindres en fonte dure, et on fait passer le grain entre les cylindres. Les cylindres sont grainés, tournent à l'endroit, tournent à l'envers, enfin ça dépend de ce qu'on veut faire. Et on obtient de cette façon-là une farine extrêmement pure si on la trie entre chaque passage de la machine. Et la firme qui s'appelait à l'époque TC et Bro a choisi très très rapidement de fabriquer ces machines et s'est alliée avec un industriel parisien qui s'appelait Monsieur Gillet et qui avait pris une licence de ce type de machine qui avait été inventée en Hongrie. Et toutes les farines...
Ça me fait très plaisir, comme vous savez, je suis hongroise, ça me fait très très plaisir. Alors je crois qu'on va peut-être revenir ensuite à ces grandes capitaines d'industrie qui ont développé, qui ont fait vivre cet endroit. Mais en attendant... On retrouve encore Fachin Glaslo qui va nous interpréter Johann Sebastian Bach, toujours sur les grandes orgues de la cathédrale de Chartres. Alors, vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel et notre émission Histoire d'en savoir plus, où je suis en compagnie de Michel Ferronnière pour évoquer la grande fonderie de Chartres. Et dans cette ultime partie de notre émission, j'aimerais absolument qu'on trouve un petit moment pour parler de ces grands hommes qui ont réussi à rendre la grande fonderie un des grands fleurons de l'industrie française. Alors, qui étaient-ils, ces membres de votre famille? Les Brault, vous avez dit déjà tout à l'heure.
Ce qui est extraordinaire quand on se plonge un peu dans ces histoires-là, c'est qu'effectivement, on revoit des personnes qui, au XIXe siècle, travaillaient énormément et avaient une foi incommensurable entre le progrès, ce que le progrès apportait à l'humanité, à la fois pour alléger le travail des ouvriers et aussi pour leur apporter une sécurité matérielle. Donc, dans ma famille, le premier s'appelait Alexandre Brault. Mm-hmm. Alexandre Brault avait un fils qu'il a élevé pour prendre sa Suisse à qui il écrivait des lettres pour le persuader du bien fondé de son avenir, de l'application.
Voilà, de son application.
Alors, j'ai une lettre sous les yeux, il disait « Mon cher Francis », donc le dit Francis était en vacances chez ses grands-parents autour du Perche, et il lui écrivait ceci « Mon cher Francis, travaille, travaille, travaille. Je viens de recevoir de monsieur le directeur de Sainte-Barbe. » Sainte-Barbe, c'était un collège réputé à Paris.
C'est ça.
Une lettre qui m'annonce ta nomination pour la rentrée prochaine. Je suis enchanté, mon cher Francis, d'avoir pu réussir, etc., etc., etc. Je compte beaucoup sur ta docilité et surtout sur ton aptitude à relire tes devoirs et à ne rien clore sans que tu te sois assuré qu'il n'y manque rien. Voilà,
voilà comment les pères parlaient à leurs fils à l'époque. Alors dites-moi juste, parce que malheureusement, je vois le temps qui court.
Alexandre Brault, d'ailleurs, a fondé ce qui s'appelle maintenant les Travailleurs, qui est une société d'assurance, et qui à l'époque était une société de secours mutuel. Et il a été maire de Chartres pendant 2 ans. Son fils Francis a aussi mis en pratique les conseils de son père. Malheureusement, il est décédé relativement jeune, et il n'a pas pu avoir la carrière, je dirais, d'après-travail telle que l'a eu son père. Je dois aussi dire qu'un des associés de l'affaire, qui s'appelait Bétoire, qui est connu à Chartres parce qu'on connaît l'avenue Bétoire, a été lui aussi maire de Chartres. Donc vous voyez que la, l'implication de cette affaire dans la vie chartraine était non seulement au niveau...
industriel, mais politique en même temps.
Finalement. Oui, mais politique et social.
Alors, ben voilà. Alors, j'ai l'impression, vous savez, je reste vraiment... On reste sur notre faim, puisque votre famille, visiblement, a plusieurs membres très illustres. Il serait intéressant, et je vous le propose... Peut-être une autre fois de se retrouver et de parler uniquement de ces bros qui ont fait énormément de choses. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, ça va être bientôt la fin de notre émission. Alors, je vous remercie encore une fois d'être venu et je voudrais vous dire que voilà, cette grande fonderie, si vous êtes en Basse-Ville et vous passez devant la cheminée, il y a une petite pensée pour tous ces gens-là qui ont travaillé, pour ces ouvriers qui ont eu des attitudes héroïques durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, voilà, j'aurais voulu savoir ce que Michel avait repensé en tenant ce magnifique livre à la main, mais maintenant, c'est à vous de le découvrir en allant ou bien dans la librairie Esperluette, où bientôt ça va être commercialisé, ou bien, quand vous disiez, Michel...
Alors, je rappelle les coordonnées de la Société archéologique d'Eure-et-Loire. Donc, c'est dans Chartres, 1 rue Jean Poquet. C'est une espèce de château d'eau, tour moyenâgeuse que tout le monde connaît près du lycée. Et le numéro de téléphone, c'est le 02... 37, 36, 91, 93. Donc, on peut commander le livre. Il y a un secrétariat qui est ouvert toute la semaine.
Mais sinon, vous faites peut-être une signature bientôt. C'est ça, vous avez
alors
la date.
On va faire une signature à l'Esperluette.
La date,
mais je n'ai pas encore le jour et je ne peux pas vous le donner.
On va demander à nos amis de la radio de l'annoncer dans nos petits passages. Et vraiment, merci Michel Ferrunien de nous avoir rendu visite. Et merci aux auditeurs de Radio Grand Ciel de nous avoir suivis. Et j'espère que vous allez vous précipiter chez Esperluette pour trouver ce superbe livre dont je rappelle encore le titre, La Grande Fonderie, une histoire chartraine. Merci Michel d'être venu. À bientôt.
Merci à vous.
Et on vous écoute en écoutant Franz Liszt que Laszlo Fassang va nous jouer toujours sur les grandes orgues de la cathédrale de Chartres.